Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panée tenue Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
I'd like to remind you that truth is often stranger than fiction.
Au sommaire aujourd'hui, eh bien une émission consacrée à Alfred Hitchcock et plus précisément au coffret Hitchcock en 10 films édité par Carlotta Film. Alors, ce coffret d'ailleurs comprend un peu plus de 10 films en vérité, puisqu'il comprend Le Masque de cuir, un film de 27, Laquelle des Trois, un film de 28, À l'américaine, un autre film de 1928, The Monk's Man de 1929, Chantage de la même année et surtout sa version muette et sa version parlante, Meurtre, un film de 1930 qui est couplé dans les bonus avec sa version allemande Marie, Junon et le Pan, un autre film de 1930, The Skin Game de 1931 et À l'Est de Shanghai de 1931 aussi, et on termine par le facétieux numéro 17, un film de 1932. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier pour son aide sur cette émission. Pour causer de la légende Alfred Hitchcock aujourd'hui, je suis accompagné de mes légendes à moi. Bon, elles ont moins influencé l'histoire du cinéma, mais je les aime beaucoup quand même. À ma droite, Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et à ma gauche, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques. Alors, pour plein de médias, hein, voilà, moi, je ne sais pas qui citer, mais tu nous le diras, Thomas. Bonjour, Thomas.
Bonjour, Jérôme. Bonjour, Damien. Et bien évidemment, bonjour à toutes.
Je suis un homme heureux quand je ne fais pas de cinéma.
Et si Alfred Hitchcock était le seul poète maudit à rencontrer du succès, c'est parce qu'il a été le plus grand créateur de formes du XXe siècle et que ce sont les formes qui nous disent finalement ce qu'il y a au fond des choses. Qu'est-ce que l'art, sinon ce par quoi les formes deviennent style? Et qu'est-ce que le style, sinon l'homme? Ainsi s'exprimait Jean-Luc Godard dans Histoire du cinéma au sujet d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock qui va nous occuper aujourd'hui. Alors bon, je le dis tout de suite en intro de l'émission, mes acolytes le savent, je considère Alfred Hitchcock comme le cinéaste le plus important de l'histoire du cinéma. J'en aime plein d'autres, mais je trouve que Hitchcock a ce truc en plus, c'est-à-dire qu'il a créé des avant et des après. Chaque scène de ses films est quasiment un film à lui tout seul. C'est assez dément, Hitchcock, quand on réfléchit bien, mais on va y revenir plus longuement, parce que là, grâce à Carlotta Film, qui a de la suite dans les idées, parce qu'il y avait une rétrospective qui s'intéresse, s'appelait hein, aux origines du maître du suspense, on peut voir en fait dans des copies superbes l'ensemble en fait des films que Hitchcock a tourné pour la British International Pictures, sachant qu'il avait démarré avant. Je vais faire un peu, c'est pas ses premiers films, c'est pas ses 10 premiers films, il a fait quelques films avant. On va faire un peu d'histoire rapidement. Hitchcock est né en 1899.
Il naît le 13 août d'ailleurs, comme mon frère, que je salue. C'est le fils d'un épicier et d'une mère irlandaise catholique pratiquante. Hein, voilà. D'ailleurs, on en reparlera quand on parlera d'un des 10 films, d'un des 10 films sur les 12, en fait. Hein, en vérité, il y en a 12 qui sont dans le coffret. Qui va vivre un épisode de son enfance. Alors, on sait maintenant par Patricia Hitchcock, qui est la fille d'Hitchcock, que Hitchcock en avait rajouté un peu. Il avait fait un peu de storytelling quand il racontait qu'il avait été enfermé pour une broutille très longtemps dans un commissariat. En fait, il a été enfermé 5 minutes par un copain de son père qui était flic dans un commissariat. Mais par contre, il était tout petit et ça l'a vachement traumatisé. Et il en a gardé une peur tenace de la poulaille. Et c'est là que, en fait, chez lui, s'est développé pour la première fois un sentiment de peur très fort qu'il a toujours essayé de retranscrire dans ses films. Et puis, Hitchcock va faire, se destine pas spécialement à travailler dans le cinéma. Lui, il veut y aller, hein, mais au départ, il fait des études qui vont l'amener à travailler dans une agence de pub où il va faire du dessin. Il va perfectionner. D'ailleurs, c'est un très bon dessinateur. C'est lui hein, qui trace ce fameux profil d'Hitchcock qu'on voit sur les génériques de la série Alfred Hitchcock présente et tout. C'est lui qui a un peu inventé. Il a toujours su se mettre en scène. C'est là aussi une des forces d'Hitchcock. On va en reparler. Et puis, il passe de ce statut de jeune homme qui travaille dans la pub, tout ça, et qui fait un peu de graphisme. Il passe très vite à rédacteur d'intertitres pour le cinéma muet. Et très très vite, il est très ambitieux, il veut devenir cinéaste, et il veut devenir un cinéaste important. Et très très vite, il va commencer à faire des films. Très jeune, hein, il va être considéré comme vraiment le jeune prodige du cinéma anglais. Et à partir de 1926, déjà avant, il va commencer à travailler sur des scénarios, tout ça. Il va être décorateur, il va être monteur, enfin il va faire plein de boulot en fait dans le cinéma, ce qui fait qu'il a cette grande maîtrise technique en vérité. Hein. Et très vite, il va devenir réalisateur en 1926 parce qu'il est quand même né en 1899, donc c'est jeune hein, pour commencer à mettre en scène des films. Il va tourner The Pleasure Garden en 1926, c'est sa période Gainsborough, il va travailler pour la Gainsborough. Et un autre film qui s'appelle The Mountain Eagle, alors celui-là il est perdu, c'est le seul... un des seuls qu'on ne peut pas voir d'Hitchcock, où il travaille pour les premières fois avec Alma Reville. Il y a des photos d'eux d'ailleurs qu'on peut voir dans le coffret, dans les bonus. Et Alma Reville est déjà son assistante réalisatrice dès son premier film et sa script, en fait. Et en fait, la petite histoire dit qu'Alma Reville avait un poste très important. Elle a d'abord été monteuse, parce qu'il y avait un cliché qui disait que les femmes avaient des petits doigts, donc c'était plus facile pour elles de faire du montage pour les femmes qui travaillaient dans le cinéma, cliché sexiste. Mais elle a très vite gravi les échelons, elle s'est vite rendue indispensable, elle est devenue assistante, elle est devenue actrice aussi. Et Hitchcock l'a considérée comme supérieure à lui. Et c'est que seulement quand il a commencé à réaliser des films qu'il s'est mis à travailler avec elle, en fait. Voilà. À partir de là, il fait ses deux films, ce que je viens de vous dire, et puis surtout... Quand il va faire ces deux films, il va les tourner en fait dans les studios Babelsberg et il rencontre Murnau, qu'il adore, qu'il vénère, et il le voit réaliser Le Dernier des Hommes. Et là, il voit ce qu'on appelle la caméra tournoyante, la caméra folle qu'utilisait Murnau. Il voit qu'on peut filmer le cinéma autrement, qu'on peut faire des images complètement dingues. Il emmagasine plein de choses comme ça et il rentre et il fait The Lodger. Qui est son premier... Lui, il le considère comme son premier vrai film hitchcockien, ce film assez génial. Un film qui raconte l'histoire d'une famille qui héberge un personnage qu'on soupçonne d'être un assassin. Voilà, parce qu'en même temps, un assassin qui sévit dans Londres. Et on commence à voir l'apparition des premières blondes platines, on commence à voir des velléités de mise en scène assez impressionnantes. Moi, je repense toujours à cette scène où on entend l'assassin rentrer chez lui. Comment ça, c'est un film muet? Mais si, on arrive à l'entendre chez Hitchcock, parce qu'en fait, il a fait construire un plancher transparent. Et les gens, on comprend qu'il arrive à entendre les pas de l'assassin, puisqu'on peut... La caméra s'élève et on voit le type qui est au-dessus d'eux, le présumé assassin donc qui est au-dessus d'eux. Et c'est une scène absolument bluffante. Et puis après, il va enchaîner quelques films. Downhill, très intéressant. Easy Virtue, Le passé ne meurt pas. Avant de changer de compagnie et de rejoindre la British International Pictures pour les films dont on va parler aujourd'hui. Film d'ailleurs où il travaille énormément. parce qu'on on parle beaucoup d'Alma Reville aussi, qui a été donc sa femme, hein, qui a travaillé avec lui toute sa vie, en fait, même quand elle n'était pas créditée. Mais Charles Barr, dans les bonus du coffret, nous apprend aussi qu'il y avait un type qui avait un rôle primordial dans tous les débuts d'Hitchcock, et on peut le voir, hein, c'est ce scénariste qui s'appelle Elliot Stannard. Alors, Charles Barr, c'est un grand spécialiste d'Hitchcock et du cinéma britannique, mais on ne peut pas lire grand-chose de lui. Il y a un livre qui a été publié par la BFI dans la collection des classiques du cinéma, qui a été traduit en français chez Aquileos. C'est une étude sur Vertigo, donc le livre s'appelle Sueur froide, de Charles Barr. C'est à peu près, je crois, le seul livre en langue française de lui qu'on peut lire, mais il a produit, c'est un universitaire, et il a produit énormément de choses sur le cinéma britannique, et forcément sur Hitchcock. Voilà. Et il explique, Charles Barr, qu'en fait, Elliot Stannard, c'était vraiment un scénariste très inventif, et qui donnait beaucoup d'indications sur la mise en image de ses scripts, dont s'est inspiré Hitchcock. Ça n'enlève absolument rien au génie, de toute façon, d'Hitchcock. Et le truc, c'est que Stannard, il est né en 1888, il est mort en 1944, et il a à peu près arrêté de signer des scénarios aux alentours de 33. Donc il est un peu tombé dans l'oubli parce qu'il a aussi parce qu'il a quand même fait plus de 150 scénarios, hein, dont là, des films dont on a parlé un peu, de Jardin du plaisir, The Mountain Eagle, Les cheveux d'or, mais aussi Le masque de cuir, mais aussi Champagne, Laquelle des trois, The Manxman. Donc c'est vraiment tous les films du début de carrière d'Hitchcock, quasiment tous. Et il a signé énormément de scénarios, mais la plupart des scénarios qu'il a signés, la plupart des films sur lesquels il a travaillé ont disparu, ils sont invisibles en fait. Il reste à peu près ce Hitchcock, parce que selon cet historien, donc Charles Barr, le rôle d'Eliot Stannard n'est pas à négliger. Donc dans ses tout premiers films d'Hitchcock. Et mon cher Thomas, si on prend le coffret dans l'ordre chronologique, tout cela commence, en tout cas dans son travail avec la British International Pictures. Tout cela commence donc par Le masque de cuir, ou The Ring, ou Le Ring aussi d'ailleurs, qui est aussi l'un des titres français. Il y a plusieurs titres, hein, La Piste, La Reine, voilà. Mais nous, on va retenir Le masque de cuir, puisque c'est le titre qui a été retenu par Carlotta, justement pour présenter le film dans le coffret. Vous écoutez Culture Prohibée.
C'est un coffret assez surprenant, hein. Moi, je ne connais pas Hitchcock comme toi, tu connais, Jérôme, hein. Et quand on découvre, par exemple, ce premier film, Le masque de cuir, on découvre une autre facette d'Hitchcock qui se concrétise quand on regarde les autres films de ce coffret, parce que en fait, il n'y a pas que des films policiers. Voilà. Et Le masque de cuir, c'est une sorte de drame un peu sentimental. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les autres films, notamment dans The Manxman, dans Champagne ou encore à l'est de Shanghai. C'est un cinéma qui est très imprégné de rapports de classe. Il y a beaucoup ça dans ces films-là, et aussi beaucoup, il est beaucoup question de chassés-croisés amoureux. En particulier dans Le masque de cuir, c'est un trio amoureux, hein. Donc c'est un jeune homme qui est boxeur, hein, qui est boxeur dans une fête foraine, et qui est réputé pour gagner en un seul round tous ses combats. Et il va se confronter à un homme qui est plus fort que lui, qui a aussi plus d'argent. Et ce boxeur avait l'intention d'épouser l'ouvreuse, dont ils sont amoureux, ils sont épris l'un de l'autre. Mais cet homme riche, il va se mettre entre eux. Donc là, il va se nouer un drame dont on n'a pas l'habitude qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Hitchcock. Hein. Donc et on retrouve ça dans Champagne, et on retrouve ça aussi dans The Manx Man. Ces chassés croisés amoureux, ces trios amoureux. Alors parfois, c'est traité sur le ton de la comédie. Mais parfois, c'est beaucoup plus dramatique que ça. Hein. Je pense notamment à The Manx Man, hein, l'homme de l'île de Man, qui est un véritable mélodrame. Alors là, on ne rit pas une seule seconde, hein, contrairement à Champagne ou à l'Est de Shanghai, où là, il y a de l'humour, il y a vraiment des... On va un peu ailleurs, hein, mais là, c'est vraiment un mélodrame. Alors, je suis surpris, Jérôme, que tu aimes ce film, parce que c'est un mélodrame. Alors, je sais ton amour pour les mélodrames. Et là, c'est un film qui est quand même particulièrement cruel. Par rapport aux autres, je trouve que le film, il va très loin dans la cruauté. Il malmène vraiment son personnage principal jusqu'au bout. C'est une facette d'Hitchcock. Bon, bien sûr, ces films policiers, etc., sont pas spécialement... il ménage pas spécialement ses personnages, hein, mais pour cette facette d'Hitchcock, cette tendance au drame, à la comédie, au mélodrame, là je trouve qu'il va vraiment très loin.
Moi j'aime beaucoup The Manx Man parce que pour moi c'est dans leur bouquin que j'ai ramené là en studio, Eric Rohmer et Claude Chabrol, qu'on peut trouver chez Ramsey, bouquin qui s'appelle Hitchcock. C'est le premier bouquin écrit en France sur Hitchcock d'ailleurs. Dans The Manx Man, ils expliquent bien que Hitchcock pénètre pour la première fois dans un domaine qui lui est devenu cher, le vertige. Et alors j'aime The Manx Man pour plein de raisons. Je vais aller rapidement sur The Ring quand même, le masque de cuir, à l'américaine. Donc Champagne, hein, et Laquelle des Trois, The Farmer's Wife, qui sont trois films intéressants. Alors le Masque de cuir est pour moi un film d'ailleurs très intéressant, où on sent déjà chez Hitchcock cet amour de la symbolique, parce que The Ring, c'est l'anneau, c'est l'alliance, c'est en même temps le ring de boxe. Il y a une des premières héroïnes hitchcockiennes, hein, c'est Lillian Howell Davis, qu'on retrouve dans Laquelle des Trois. Laquelle des Trois, c'est l'histoire d'un riche propriétaire terrien, d'un fermier qui cherche une femme. Alors il y a souvent question de classe, de rapport de classe dans ces films, parce que c'est aussi adapté de pièces de théâtre, très souvent, hein, qui sont des pièces de théâtre qui causent de ces sujets, en vérité. Hein. Donc, mais ça intéresse Hitchcock. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que, même dans sa manière de représenter les femmes, on est sur une autre facette d'Hitchcock, en fait. On voit que c'est un cinéaste en perpétuelle évolution, en vérité.
Oui, c'est vrai que la façon dont il représente les femmes et leur rapport entre les hommes et les femmes, notamment dans Laquelle des Trois, où c'est un homme riche qui se cherche une femme parce que son épouse est décédée, pendant une bonne partie du film, il ridiculise son personnage. Il a un rapport à la virilité, au masculinisme qui est quand même assez moderne. Quand on regarde le film aujourd'hui, il y a quand même un rapport à ça, à la façon dont il dépeint son personnage masculin par rapport à sa façon dont il traite les femmes, dont il se présente par rapport aux femmes, qui est quand même très moderne. Après, bon, la fin, il se rattrape un petit peu.
Oui, oui.
Bon, je pense que c'est les conventions de l'époque. Hein,
et puis, il faut dire qu'Hitchcock, c'est aussi un homme pétri de contradictions. C'est-à-dire qu'il a une éducation. Son père décède, il est jeune, donc il se retrouve très tôt à vivre avec sa mère. Sa mère est une fervente catholique. Il va nourrir un rapport, bon, on le voit bien dans toute sa filmographie, d'amour-haine envers la figure de la mère, envers la religion, qui va jamais cesser non plus manquer de ridiculiser quand il pourra dans ses films, hein, dans pas mal de films en vérité, hein, même dans sa période américaine. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces premiers films-là, c'est qu'on sent, oui, effectivement, l'amour d'Hitchcock pour les déclassés, même pour les frics, parce que dans Le Masque de cuir, The Ring, il y a l'aspect forain, il y a l'aspect monstrueux. Hitchcock disait de lui-même, Hitchcock se trouvait très laid, il avait un énorme problème avec son physique, il disait « moi-même, je suis un monstre ». Il l'a dit à Truffaut, hein, dans les entretiens avec Truffaut. Et effectivement, on est avant le frics, en plus de Todd Browning. Donc il y a déjà cette représentation-là du monde forain, de la difformité, de la différence. The Farmer's Wife, hein, Laquelle des Trois, c'est pareil, traite d'un... En fin de compte, c'est un sujet assez original, en fin de compte, hein, cette histoire de... Bon, alors après, en termes de mise en scène... il y a laquelle des trois. Pour moi, il y a surtout un moment de mise en scène qui est vraiment super, c'est quand le personnage réfléchit aux différentes femmes avec lesquelles il pourrait avoir une relation et qu'il y a ces femmes qui apparaissent en surimpression sur la chaise. Là, il y a de la mise en scène, quoi. Je veux dire, c'est une scène. Alors, c'est une scène qu'on peut qualifier effectivement d'un peu misogyne, hein, voilà. Mais parce que toutes ces femmes représentent un cliché de la femme en fait différent à chaque fois. Mais il y a quand même le salut chez la femme qui est symbolisé par cette actrice qui descend dans une belle robe. Scène qu'on reverra dans plein de films après, je veux dire, par exemple Rebecca, tout ça, enfin plein de films. C'est Lillian Hall Davis. Alors, Lillian Hall Davis, en plus, c'est une actrice qu'Hitchcock aimait bien. Il l'a fait tourner donc plusieurs fois, Laquelle des Trois, Le Masque de Cuir. C'est une actrice qui était une star du temps du muet, mais elle ne va pas aimer sa voix. Elle ne va pas réussir à faire carrière quand le parlant va arriver, parce qu'on oublie, on le dit toujours, hein, Hitchcock, il a fait tous les métiers dans le cinéma. C'est aussi pour ça qu'il est tellement génial, en fait. Il a fait le muet, il a fait de la 3D, c'était un expérimentateur incroyable de formes visuelles. Il a créé le trans-traveling, ce qu'on appelle le trans-traveling, voilà, avec ce zoom avant combiné avec un traveling arrière, voilà, ou inversement, voilà. Donc c'est un créateur de formes dément, et même la manière de filmer les immeubles, c'est aussi qu'on peut voir pour la première fois dans The Manxman, donc je vais y arriver. Mais je trouve qu'effectivement, Thomas, tu as raison, il y a un rapport différent au peuple, au petit peuple, dans ces films-là, en tout cas dans ces premiers films d'Hitchcock. À l'américaine est un peu à part, parce que c'est plutôt une sucrerie, un bonbon, c'est quelque chose de mignon presque à l'américaine, avec cette histoire de type qui doit surveiller, qui envoie un type surveiller sa fille, en fait, sa fille qui est riche, et le père voit d'un mauvais oeil sa relation avec un autre type, voilà. Et donc il envoie ce mec la surveiller. Il y a un petit côté suspense, parce que pendant tout le film, on ne sait pas si le type est un prédateur ou pas, mais Hitchcock franchit jamais vraiment le Rubicon. À un moment, on le voit agresser sexuellement la jeune femme, mais ce n'était qu'un rêve. C'est un peu facile, comme surtout de la part d'Hitchcock. Bon, après, c'est ses premiers films, hein, voilà. Mais par contre, le film démarre par un truc assez génial, c'est que à l'intérieur d'une coupe de champagne, il y a la scène sur le bateau là qui arrive, et ça, ça a demandé un travail phénoménal. C'est un effet spécial de dingue, hein, qui est toujours efficace aujourd'hui. Mais pour en revenir à The Manxman, parce qu'on a un peu balayé les trois films, il y a beaucoup de films, hein, donc voilà. Mais The Manxman, pour moi, c'est le premier vraiment film c'est le plus important dans ses premiers films. Il y a eu The Lodger avant, évidemment, mais pour cette firme-là, c'est le premier, pour moi, film très important. D'abord parce que Hitchcock détestait tourner en extérieur. Il adorait tourner en studio. Et là, il se frotte aux extérieurs, et c'est un film incroyable, parce qu'il va filmer des extérieurs avec un lyrisme, une force qui est incroyable. Et en plus, c'est l'apparition d'Annie Ondra. Alors, Annie Ondra, c'est la première, en fait, mais c'est réel, c'est la première incarnation de la blonde Hitchcockienne. Vous voyez, Hitchcock est tellement fort que son nom est devenu un adjectif, quoi, quand même. Et la blonde Hitchcockienne, quand on dit ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et en plus, ça traverse les générations. Et donc, c'est Annie Ondra. Et Annie Ondra, c'est cette actrice, alors, d'origine, je crois, tchèque, et qui est une actrice des Pays de l'Est, qui est une actrice incroyable, mais c'est une pure actrice du muet, en fait. C'est-à-dire que c'est difficile de le nier. C'est-à-dire que, par exemple, elle fait passer des tonnes d'émotions et de messages juste par les postures de son corps, par la manière dont elle va bouger son visage. Je pense que Hitchcock était aux anges devant cette actrice. D'ailleurs, dans Chantage, elle est littéralement... Enfin, elle est sidérante, hein, dans le film. Et malheureusement, cette actrice, elle a un petit problème. Comme elle vient des Pays de l'Est, elle a un accent à couper au couteau. Mais il faut savoir que c'était déjà une star, en fait, avant d'arriver sur The Manxman. Et contrairement à ce qu'on dit, parce que par exemple, dans Chantage, le film d'Hitchcock, c'est une autre actrice qui cachée derrière des paravents, parce que c'est filmé en son direct. C'est pareil, premier européen à faire du son direct, hein, Hitchcock. Hein. C'est une femme qui parle à sa... C'est une autre actrice qui parle à sa place, parce que sa voix, son accent est trop prononcé. Mais elle va continuer à avoir une belle carrière. Hein. C'est une vraie star. Elle a tourné dans plus de 50 films. Elle avait déjà une quarantaine de films à son actif. Bon, faut dire qu'à l'époque, il tournait 3-4 films par an. Hein. Elle avait déjà une quarantaine de films à son actif quand elle arrive sur The Manxman. Et elle va prolonger cette association avec Hitchcock sur ces deux films, voilà.
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial Alfred Hitchcock.
Là où le film, effectivement, alors c'est un mélodrame, mais c'est un mélodrame hitchcockien. C'est-à-dire que c'est tordu, c'est pervers. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un premier film hitchcockien. C'est l'histoire d'un triangle amoureux, qui est une figure chez Hitchcock assez classique. Après, elle se répercutera de manière différente, parce qu'après, ce sera des triangles amoureux avec des personnes mortes. Hein, ce qu'on voit chez Rebecca, par exemple, et c'est ce qu'on voit dans Sueur froide. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment hanter le cinéma d'Hitchcock. Hein. Là, il y a tout ça déjà dans le film. Là. C'est-à-dire que Annie Ondra, évidemment, elle est sublime, elle est sublimement belle. Donc, elle est amoureuse d'un type. Ce type, elle est amoureuse de deux types. Il y a deux types qui l'aiment, elle les aime aussi, voilà. Et puis il y a un des deux types qui est un pêcheur. Il part en mer et puis il revient pas. Il est mort, voilà. Boum. Et puis elle se met en couple avec l'autre gars et très longtemps après, le type revient. Et là. Là, c'est compliqué. Donc, évidemment, se pose la première fois dans le cinéma d'Hitchcock le fait de coucher avec un mort, déjà. Puisqu'il est revenu d'entre les morts, voilà. Donc, on peut dire oui, mais non, mais c'est tiré par les cheveux. Pas quand on voit le reste de la filmographie d'Hitchcock, en vérité. Ça peut paraître tiré par les cheveux à l'époque. C'est juste un type qui revient, qui n'était pas mort, en fait, et puis voilà. Sauf que, quand on voit la filmo d'Hitchcock, du coup, ça devient beaucoup plus ambigu, intéressant. Moi, je trouve que le film est un des mieux mis en scène dans cette période-là, avec Chantage, qui est le film suivant, qui est proposé dans sa version muette et sa version parlante, donc, puisque le parlant arrive en même temps que Hitchcock tourne le film, donc on lui dit qu'il faudrait que nous fasses une version parlante. À l'époque, ça se faisait beaucoup. On tournait dans plusieurs langues à la fois, tout ça, tout en parallèle. Il y a plein de réalisateurs qui faisaient ça, en fait. Et Hitchcock, il fait Chantage, alors qui est une histoire quand même assez tordue et très moderne aussi. Très, très moderne. C'est-à-dire que Annie Ondra, la belle Annie Ondra, amoureuse d'un policier, d'un mec de Scotland Yard, d'un policier. Voilà. Et puis un jour, elle en a marre parce que lui, il bosse beaucoup, il la délaisse pas mal. Et elle décide de fricoter. Un soir, elle lui pose ils vont ensemble au resto. Et puis, elle l'envoie un peu bouler. C'est une femme moderne. Et puis, elle fricote avec un artiste qui est là. Petit à petit, elle se retrouve à accompagner l'artiste en rentrant chez elle. Au début, elle ne veut pas le suivre, puis elle le suit quand même. Elle est quand même tentée de découvrir ce qu'il fait, tout ça. Et elle se retrouve chez lui, et le type, qui est affable, souriant, qui est plutôt bel homme, et tout ça, tout à coup, il va tenter de la violer, elle va le tuer. Voilà. Et à partir de là, va dérouler toute une mécanique, alors particulièrement perverse, là aussi. Quoi. Vraiment, là, on est chez Hitchcock à 2000%. C'est-à-dire que le flic, il va tout de suite comprendre que c'est sa copine la coupable. Il le sait tout de suite, à cause d'un élément qu'il trouve par terre. Voilà. Bon. Mais au lieu de blâmer sa copine, qui est victime d'un maître chanteur qui, lui, est au courant qu'elle a tué le gars, le scénario va complètement s'inverser, va devenir complètement immoral. En fait, c'est un film totalement immoral. Le type va décider de protéger sa dulcinée, en fait, et de faire accuser un innocent. Voilà, c'est assez génial, en fait, comme idée de scénario. Vas-y, Thomas, je vois que tu veux intervenir.
Un innocent qui ne l'est pas tant que ça. parce que c'est quand même un sale type qui a un casier, etc. Bon, quelque part, bon, c'est vrai que le film est immoral, mais je veux dire, c'est pas comme si c'était un innocent de pur chez pur, quoi. Mais par contre, le film, il est extrêmement moderne, notamment toute cette longue séquence chez le peintre, parce qu'à un moment, il lui demande de revêtir une robe pour la peindre, etc. Et elle se met derrière un paravent. Alors nous, on la voit derrière le paravent, puis elle se déshabille. Mais pour l'époque, c'est vachement érotique, hein. C'est très moderne. Et de l'autre côté du paravent, il y a ce type qui tourne, puis cette façon de cadrer avec le paravent entre les deux personnages, ça montre le désir qui monte chez l'homme, l'impatience de pouvoir la voir et la posséder, quoi, ni plus ni moins. Et c'est une idée de mise en scène que je trouve excellente.
Alors, c'est l'invention du split screen, on peut le dire, hein, que voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que cette scène-là, elle n'est pas dans la version muette. Dans la version muette, c'est un travelling avant en vision subjective du type qui va vers... Il ne joue pas de piano dans la version muette. Que dans la version muette, il ne joue pas de piano. Et la version muette, elle est différente. Elle n'est pas mise en scène de la même manière. Il ne s'est pas contenté de refaire le même film. C'est-à-dire que dans la version parlante, le type lui joue des chansons au piano, tout ça. Et d'ailleurs, il lui joue une chanson sur elle, qui est une chanson qui est... une chanson qui raconte une érection quasiment, quoi. C'est métaphorique, c'est Hitchcock, quoi, voilà. Et en fait, c'est le bouchon de champagne de la main au collet. Enfin, je veux dire, il y a toujours où le tunnel dans lequel rentre le train à la fin de La mort aux trousses. Chez Hitchcock, il y a un côté trivial, quoi. Voilà, on sait qu'il voudra aller beaucoup plus loin d'ailleurs après. Et on en reparlera. Et là, les deux scènes sont très différentes. La scène est incroyable. C'est vrai que c'est un vrai choix de mise en scène. C'est-à-dire que la scène dans le film muet, elle est tout aussi puissante. Ce travelling avant sur le visage d'Annie Ondra, qui évoque peut-être aussi le visage de Fay Wei qui joue la peur dans King Kong. C'est-à-dire qu'Annie Ondra, elle incarne ça. C'est-à-dire on voit tout à coup cette jeune femme dont le visage est déformé par la peur à l'approche de ce type dont nous, on ne voit pas le visage, mais dont on se doute que ce type, en fait, il a le visage du prédateur à ce moment-là. Voilà. Et à partir de là, bon, vont se multiplier. Ouais, tu le dis, c'est très érotique. Puis toutes ces idées de mise en scène, parce qu'elle va dans la rue, elle erre toute la nuit. Et il y a plein d'éléments de décor. Par exemple, il y a des pubs lumineuses et elle voit une pub lumineuse qui se transforme en main avec un couteau. Voilà, elle voit un clochard dans la rue dont le bras pend et ça lui évoque ce bras qui pend du lit de la victime qu'elle a tuée. Voilà. Il y a le meurtre à l'arme blanche aussi. Là aussi, on inverse les rôles. C'est-à-dire que ce n'est pas la forme phallique qui pénètre la femme, c'est la femme qui pénètre l'homme avec la forme phallique. Et puis, il y a une fin incroyablement moderne où les hommes sont ridiculisés, c'est-à-dire... Et c'est marrant, c'est pas du tout la fin qui était prévue par Hitchcock. Au départ, Hitchcock, il avait prévu une fin où elle se rendait à la police, et puis... l'inspecteur Scotland Yard, son collègue lui disait « Bon, tu vas arrêter d'abandonner ta femme, ce coup-ci, ce soir, tu vas passer la soirée avec elle. » Et lui, il répondait « Non, on rentre séparés. » C'était la fin d'Hitchcock, mais les studios, quand ils ont dit « Non, c'est trop lugubre, c'est trop... » Voilà. Qui était une fin plus morale, d'ailleurs. Et merci les producteurs, en fait, sur ce coup-là, parce qu'ils m'ont fait changer la fin du film. Et à la fin du film, en fait, ces types sont tellement cons. Il pense que la femme est inférieure à l'homme, donc il pense qu'évidemment elle ne peut pas avoir commis un crime. Et donc quand elle vient au commissariat pour dire qui est l'auteur du crime, les collègues du type sont morts de rire. Tu vas te faire piquer ton job par une femme, machin, tout ça. Enfin, ces types sont absolument ridicules. Et lui se garde bien de leur dire, bande de cons si vous saviez. Il se garde de leur dire. Et puis il y a cette idée géniale du bouffon, de cette peinture.
Le tableau, ouais.
Le tableau d'un bouffon qui pointe du doigt. Comme ça, Annie Ondra, qui la pointe du doigt, alors on peut dire qu'il la pointe du doigt pour sa beauté, avec ce rire étrange. Puis après, il la pointe du doigt parce qu'elle voit comme s'il l'accusait d'être coupable. Et à ce moment-là, bon, une des premières fois dans l'histoire du cinéma, on rompt le quatrième mur, c'est-à-dire qu'Annie Ondra vient vers l'écran, regarde le spectateur et déchire la peinture en allant vers nous, en nous regardant nous. C'est particulièrement troublant, c'est particulièrement moderne, évidemment. Enfin, de toute façon, c'est vraiment un film très important, effectivement. C'est un des meilleurs. D'ailleurs, c'est souvent celui qui est mis en avant dans le coffret. vous écoutez Culture Prohibée. Bon, il y a des films, moi, que je trouve plus anecdotiques, pour moi, qui sont Junon et le Pan et The Skin Game, qui sont pour moi des films pas inintéressants, mais quand même beaucoup plus anecdotiques. Alors, Junon et le Pan, il l'a fait pour sa mère, c'est l'adaptation d'une pièce sur, qui se passe en Irlande, qui démarre comme une comédie, et puis tout à coup qui vire au drame, sur une famille qui se retrouve déchue pendant la guerre civile irlandaise. Pas forcément d'ailleurs déchue de ses biens, mais déchue de son honneur. Voilà. Et où c'est pareil, on dresse un portrait d'ailleurs des hommes assez catastrophique, hein, à travers la personne du mari. C'est aussi un film avec une grande star britannique irlandaise, Sarah Olgood. Et bon, Hitchcock dit qu'il a fait le film pour sa maman, mais il regrette le film. Il trouve que ce film est très mauvais, il ne l'aime pas. C'est un des films qu'il déteste le plus dans sa période anglaise. Et puis il y a The Skin Game, c'est pareil, qui est un film pareil, un peu plus mineur, je trouve, dans ces films-là, où il y a donc en gros des familles de riches qui s'affrontent, quoi, quitte à répandre des rumeurs fallacieuses sur son ennemi. Alors, Hitchcock se moque un peu, oui, des bonnes mœurs et puis de ce qu'on appellerait une vie de débauché, tout ça. Mais ça reste pour moi un film assez mineur. À la fin, tout rentre dans l'ordre. C'est des films que j'aime moins, moi, dans le coffret. Junon et le Pan et The Skin Game par rapport au reste du coffret.
On t'arrête tout de suite, Jérôme. The Skin Game, ça finit pas si bien que ça, au contraire. C'est ça qui est intéressant. Alors, comme toi, je considère que c'est pas le film qui ressort le plus du coffret, mais il y a ce truc que j'aime bien de... d'hubrisme, d'ego en fait, qui va se retourner contre eux avec justement cette famille de paysans qui viennent au tout début pour demander à la famille riche qui vit à côté d'eux de si possiblement sauver leur terre. Lui, ça l'arrange parce qu'il veut pas avoir une usine devant chez lui. Et ce combat entre les familles, il va augmenter au fur et à mesure, bon, sur une seule ligne directrice, mais il augmente. Et tout à la fin, quand cette famille de paysans revient et remercie cet homme de les avoir sauvés, il répond « Ah, j'avais totalement oublié qu'on a commencé ça à cause d'eux ». Donc c'est vraiment intéressant parce que ça parle de l'ego des fortunés.
Enfin, moi, je trouve qu'on ne sait pas très bien où il va en venir aussi par rapport à cette fin qui est quand même assez cruelle aussi. Je trouve que le film est un peu confus.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est cruel, mais ça rentre dans l'ordre quand même à la fin. Enfin, je veux dire, quelque part, ça rentre dans l'ordre aux yeux de la société, quoi. C'est pas le film qui me passionne le plus. Moi, je trouve après qu'il y a des choses plus intéressantes dans les films comme... Il y a un film fou aussi, tiens Thomas, c'est vrai, bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais À l'Est de Shanghai, qui est le film préféré d'Hitchcock dans les films qu'il a tourné en Angleterre, et qui a fait un bide, d'ailleurs, hein, qui a fait un bide, et il l'a très très mal vécu. Il faut savoir quand même que c'est une constante chez Hitchcock, c'est-à-dire que tous ses films les plus personnels, les plus grands films personnels qu'il a voulu imposer, n'ont pas marché. C'est-à-dire que ce soit Les Amants du Capricorne, que ce sont devenus des classiques aujourd'hui, hein, Pas de printemps pour Marnie, tous ces films ont été, et donc celui-ci, À l'Est de Shanghai, tous ces films ont été des échecs, ce qui fait qu'après, il est toujours revenu au crime, en quelque sorte, au thriller, parce qu'il n'arrivait pas à aller choper le public sur d'autres sujets qui lui tenaient à cœur.
Là, c'est un film sur l'argent. Enfin, pas seulement, mais un film sur l'argent qui nous fait prendre, qui donne la folie des grandeurs, hein, bien avant Louis de Funès, sur un couple qui, en fait, s'ennuie, quoi. Sont dans la routine et décident de partir en voyage. Un jour, ils ont de l'argent. Et là, donc, il y a chassé et croisé amoureux. Lui, il rencontre une femme. Elle rencontre un homme. Tous deux sont riches, mais en fait, bon, ça va pas bien se passer aussi bien se passer que ça. C'est plutôt une comédie. c'est plutôt une comédie qui est quand même bien foutue. Mais alors, il y a des passages glauques. Ah, mais il y a des passages glauques, j'étais étonné. Il y a un moment, le film, il prend un virage. Mais c'est des petits passages qui ne durent pas longtemps. Mais là, il y a des passages très glauques au milieu d'une comédie comme ça. C'est très étonnant, c'est très étrange.
Oui, Thomas, je suis assez d'accord. Le film a fait des virages successivement. Pendant un moment, il n'y a même plus de sens à l'histoire. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Hitchcock adorait, parce qu'il avait pu se laisser aller à toutes ses fantaisies créatives, à tout son délire. Et une fois de plus, à travers le personnage masculin qu'il arrive à très bien compter en 5 minutes de mise en scène au début, quoi, avec le parapluie, tout ça, j'en dis pas plus. Mais une fois de plus, il donne à voir aussi un personnage masculin assez peu sympathique. On va dire les choses comme ça. Écoutez Culture Prohibée, spécial Alfred Hitchcock. Il reste deux films dont on n'a pas du tout parlé dans ce coffret. Il y a numéro 17. Alors, numéro 17, c'est un film ludique, quelque part, hein, où un inspecteur traque un groupe de criminels. On ne sait pas qui est quoi, qui est qui. On arrive dans une maison, il y a un corps. Le film est assez énigmatique. Et puis, la deuxième partie se passe dans un train parce que les criminels veulent partir parce qu'il y a un MacGuffin, évidemment. C'est-à-dire un bijou que tout le monde veut. Et puis, à la fin, ils se retrouvent tous et on découvre qui est qui. Voilà. Le film est très ludique, très sympathique. Et il annonce les fantaisies à venir d'Hitchcock, comme La main au collet, par exemple. Ou même des choses comme La mort aux trousses, tout ça, même si La mort aux trousses est chef-d'œuvre, voilà, mais bon. Mais il y a un autre film, moi, qui dans le coffret, qui m'a passionné, qui s'appelle Meurtre. Alors, on a sa version allemande aussi qui s'appelle Marie, qui dure 20 minutes de moins que la version d'ailleurs britannique. Mais Meurtre, c'est un film très, très, très particulier. C'est le premier film, en fait, où Hitchcock traite de l'homosexualité, en vérité. Hein, parce que l'homosexualité, c'est quand même quelque chose... C'est pour ça que c'est intéressant de parler de ce film. L'homosexualité, c'est quand même quelque chose qui va revenir régulièrement dans sa filmographie. Alors, quand on pense homosexualité, on pense tout de suite à La Corde, ce film en un seul plan séquence. Bon, même si c'est un peu truqué, évidemment. Et Tour de Force aussi, avec ce couple homosexuel d'assassins. On pense à Strangers on a Train, avec cette relation entre les deux personnages très, très ambiguë. Et on pense aussi à ce film qu'Hitchcock n'a jamais réalisé, parce qu'il a fait peur à tout le monde, qui s'appelait Kaléidoscope, qui était d'ailleurs scénarisé par Ben Levy, qui ne devait pas être tout jeune, qui était le scénariste de Chantage, hein, quand même, hein, dont on vient de parler, et qui racontait l'histoire d'un bodybuilder homosexuel refoulé qui tuait des femmes en les amenant dans une cascade. Voilà. Et il existe des images sur le net des essais qui ont été tournés par l'assistant d'Hitchcock pour essayer de vendre le projet à Lou Wasserman, donc à la Universal, quand Lou Wasserman voit ça. Parce qu'Hitchcock voulait y mettre des scènes de sexe explicites. Il voulait. Il y a des éléments qu'il a repris pour Frenzy. Alors je pense que le sexe explicite chez Hitchcock n'aurait pas été. Du domaine. Ça n'aurait pas été aussi loin que de la pornographie pure, parce que parfois le film est vendu comme le film porno qu'Hitchcock n'a pas fait. C'est pas vrai. Connaissant Hitchcock et sa mesure, ça m'étonnerait. Mais par contre, le film devait s'appeler Kaléidoscope. Et il venait, une fois de plus, après les échecs de Marnie, du rideau déchiré, et il cherchait à se réinventer. Donc il voulait tourner en caméra portée, en petite équipe. Il voulait essayer de reproduire la formule gagnante de Psychose. Dont on rappelle que sans Psychose, derrière, il n'y a pas 40 ans de films d'horreur, comme on en voit toujours aujourd'hui, d'ailleurs, plus que 40 ans, d'ailleurs. Et là, dans ce film Meurtre, on a son premier. Alors, on dit que c'est un métis dans le film, mais en fait, c'est un métis, c'est un homosexuel. Son secret, c'est celui-là, en fait, au personnage. On voit bien qu'il est blanc, on voit bien qu'il s'habille en femme, on voit bien qu'il se donne en spectacle, qu'il a un côté grande folle. Alors, c'est un peu caricatural, hein, parce que je pense qu'Hitchcock avait. Là-dessus, lui, il était. Je pense que ça le travaillait, mais en bon catholique, je pense qu'il avait un avis complexe sur le sujet. Voilà. Je pense que ça le travaillait et que ça le questionnait. Voilà. Et c'est l'histoire d'un type qui cache ce secret et qui le cache même d'une manière assez déconcertante, parce qu'il va jusqu'au meurtre pour cacher ce secret. Et il fait accuser. Il y a une jeune femme qui se retrouve accusée à tort. Et puis, c'est une actrice et il y a un dramaturge qui persuadait qu'elle est innocente. Donc l'enquête va être menée comme ça, et le film est assez fascinant sur ce qu'il raconte, et puis surtout qu'il y a un moment incroyable, parce que c'est les débuts du parlant. Il y a une scène avec un monologue où le type se rase et il pense, et on entend ce qu'il pense devant sa glace, jamais vu au cinéma non plus à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, pour que l'acteur soit bien dans le truc, il a fait jouer la musique qu'on entend derrière là. Il a fait jouer la musique et il l'a arrêté net. C'était le moment de la fin du monologue.
Meurtre, c'est un film que j'aime beaucoup. On a parlé beaucoup de mise en scène depuis le début par rapport à Hitchcock. Là, dès le départ, le ton est donné. C'est-à-dire que le film s'ouvre sur un travelling où on passe de fenêtre en fenêtre. On entend un cri, donc il y a tout le monde qui va à sa fenêtre. Et juste derrière, on a un couple qui a entendu ça et qui décide de s'habiller pour aller voir ce qu'il se passe. Et du coup, ça retombe un peu sur un split screen. Alors, pas exactement un split screen tant qu'on l'imagine, mais un peu comme ce qu'on a évoqué avant pour un autre film, où on a la femme qui s'habille devant nous, et à côté, dans l'ombre, on a l'ombre du mari, justement, qui est en train de s'habiller avant d'y aller. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand ils arrivent sur la scène du meurtre, en fait, la scène, elle est un peu figée, comme si c'était presque un tableau de la Renaissance qui prenait vie devant nos yeux. Et c'est un autre truc qui est très sympathique dans ce film, c'est qu'on a un jeu avec le théâtre, parce que l'une des personnes qui était morte était une actrice, et qu'on va du coup aller interroger les personnes qui ont travaillé avec elle. Et en fait, quand les policiers arrivent, la pièce est en train d'être jouée, donc eux, ils sont dans les coulisses, et dès qu'un acteur sort de scène, ils l'interrogent, et dès qu'il doit retourner sur scène, ils arrêtent automatiquement de lui poser ses questions. Et c'est sympathique parce que ça introduit assez vite le lien qu'il y a entre justement l'enquête et la comédie. Le procès arrive assez vite, ce qui m'avait surpris avec cette scène où, un peu à la 12 hommes en colère, tout le monde donne son avis pour savoir si la personne est coupable ou pas, et au final il n'y en a plus qu'un qui hésite, avec tous les autres jurés qui sont autour de lui, qui le poussent un peu à changer d'avis. Et c'est à partir de ce moment-là, entre guillemets, que le film commence, parce que cette personne qui n'arrivait pas à se décider et qui finalement a décidé que la personne sera coupable comme le reste du jury, il commence à s'intéresser à cette affaire et à y voir les détails qui étaient étranges avant. Et on retrouve une autre lubie d'Hitchcock dedans, c'est-à-dire que la personne qui se fait accuser du crime, on verra plus tard qu'elle est innocente, et on retrouve ce côté innocent accusé à tort. On retrouve un autre sujet qu'il adore, c'est la culpabilité, c'est-à-dire que si le comédien il décide d'essayer de trouver la raison, de trouver réellement ce qui s'est passé, c'est qu'il se sent un peu mal d'avoir accusé une personne dont il n'était pas certain d'avoir commis le crime. La partie enquête, elle est légèrement longue, donc quand tu me dis que la version allemande est raccourcie, j'arrive à peu près à voir où, mais ça rend pas le film moindre, c'est-à-dire qu'on retrouve plein d'acteurs, il y a un peu ce côté nouveau paranoïaque, on sait pas vraiment à qui faire confiance. C'est moins poussé que dans numéro 17, parce que dans numéro 17, les personnages arrivent, ils parlent, mais on connaît rien d'eux, donc on sait absolument pas à qui se lier jusqu'à la toute fin du film, où on voit quelqu'un qui, entre guillemets, gagne, mais même vu qu'on ne sait pas son identité, on n'arrive pas à savoir si c'est le méchant. C'est vraiment dans la dernière minute du film que vraiment tout est révélé. Donc, Hitchcock, c'était un réalisateur qui me faisait un peu peur parce qu'il a toujours été vendu comme un monument. Donc, quand on me parlait d'un film, j'y allais un peu à tâtons. Et l'avantage avec ces 10 films, vu qu'on est avant sa méga ère, le moment où il sera terriblement connu et on part généralement de tous les mêmes films, l'avantage avec ce coffret, c'est qu'en fait, on découvre Hitchcock à ses débuts. Il a moins ce côté monument, ce qui le rend en fait beaucoup plus accessible parce qu'on a moins toute la légende d'Hitchcock derrière ses films, même si on voit comment il commence à bâtir son cinéma.
Après, il y aura encore une période anglaise à la Gaumont où il va vraiment faire ses premiers grands films, enfin ses premiers films très réputés comme Les 39 Mars, Jeune et Innocent, voilà, où on retrouve les thématiques, je disais. Puis après, il part aux États-Unis. Et c'est, voilà, c'est sa période dorée avec pendant un enchaînement de chefs-d'œuvre complètement démentiels qui vont bouleverser à jamais l'histoire du cinéma. Donc, si vous aimez le cinéma, obligatoirement vous écoutez Culture Prohibée et obligatoirement vous allez vous précipiter sur ce coffret dont on a parlé aujourd'hui. C'est Hitchcock en 10 films, aux origines du maître du suspense. C'est un coffret édité par Carlotta Film et Studio Canal.
Les gens ont tort de penser que je n'aime pas les femmes, je n'aime pas les hommes non plus, je suis effectivement un solitaire. Dans mes films, les femmes sont un mal nécessaire. Dans la vie privée, il y en a une et c'est la seule depuis ma mère. Et celle, c'est un bien nécessaire.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur, Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.